Figure d'hier, pour aujourd'hui et pour demain, avec le père Roger Wilhelm.
François d'Assise, notre frère, dame pauvreté, c'est le choix d'une vie pauvre. C'est une dernière actualité franciscaine. Là encore, il peut y avoir un réel écart entre la bonne image de François d'Assise auprès de nos contemporains et sa décision radicale de dépouillement lancée à la face de ses proches. Si beaucoup sont toujours attirés par sa joie, sa dimension pacifique et tolérante, combien en revanche sont prêts à le suivre plus loin dans des choix de renoncement au confort et aux certitudes acquises. On pense irrésistiblement au récit évangélique du jeune homme riche. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Bien sûr, et la menace écologique risque de nous y contraindre, il va nous falloir apprendre davantage la sobriété, voire la frugalité. Pour autant, un tel changement d'attitude sera-t-il suffisamment prophétique pour faire évoluer les comportements et opérer des prises de conscience? Il existe dans notre monde tant de zones de pauvreté qui appelleraient audace et courage pour agir aujourd'hui. Parce qu'elles restent issues d'un choix, on l'a dit, d'une conversion du cœur, la pauvreté ne saurait être séparée de l'humilité, une humilité qui n'est pas toujours la marque des mentalités d'aujourd'hui. Ne vivons-nous pas dans une société où il faut sans cesse se vendre, donner une bonne image de soi-même, se mettre constamment en avant? Or, voilà que François d'Assise nous convie à nous décentrer, à nous découvrir dépendants d'un créateur pour mieux le louer. Et la louange, remarque encore Michel Socquet, en une percutante formule, c'est bien l'anti-selfie, l'anti-soi. Là, nous voudrions un discours de reconnaissance individuelle. François nous parle d'humilité, de faiblesse et de fragilité. Dans son bel ouvrage « S'adège un pauvre », Éloi Leclerc a restitué d'ailleurs certains traits lumineux. À sa manière pourtant, face à ces tentations contemporaines qui sous la forme, entre autres, du transhumanisme voudrait faire de nous des êtres immortels et désincarnés, François d'Assise rappelle à bon escient que nous sommes faits de chair et de sang. Il inscrit le corps au cœur de notre condition humaine. S'il faut parler de popularité à son égard, ce n'est pas seulement à cause du respect dû à la nature et à sa joie communicative, mais aussi justement par sa capacité à mettre en avant en même temps la crèche et la croix, le corps naissant et le corps souffrant, une incarnation qui va jusqu'à l'expérience ultime. On s'explique mieux alors pourquoi François a pu susciter des formes de dévotion plus larges et accessibles, parfois aux limites du surnaturel. Est-ce un hasard si Antoine de Padoue ou Padre Pio, autres stigmatisés, sont aussi des figures de la religion populaire, des visages de compassion? Sans doute, la tradition franciscaine a-t-elle trouvé là les mots pour parler à la cohorte de nos corps souffrants, malades ou affaiblis, au-delà de nos prétentions intellectuelles? Loué sois-tu, frère et soleil. La prière adressée par François d'Assise, l'un des premiers textes de la littérature toscane, est encore sur toutes les œuvres, toutes les lèvres. Oui, cette parole récitée ou chantée. Et pourtant, le saint pourrait-il l'écrire encore aujourd'hui avec le même regard émerveillé? Comment louer les grâces de Frère Soleil à l'heure où le réchauffement rend plus précaire le devenir de notre planète? Comment bénir le Créateur pour sœur eau précieuse et chaste à l'heure où nos rivières sont polluées? Comment se réjouir des vertus de Frère Vent lorsque le ciel de nos villes charrie fumée et gaz toxiques? Terrible décalage qui fait à nouveau de François d'Assise un doux rêveur, utopiste totalement anachronique par rapport à notre époque. On n'insistera pas outre mesure sur cette cinquième actualité franciscaine, ce souci de la nature si bien repris par le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Avec justesse, cette fragilité de François s'interrogeant sur le sens et le devenir de son ordre, pris entre les partisans d'une radicalité extrême et ceux qui poussent davantage à une vie religieuse plus classique. François, fondateur fragile et s'interrogeant sur son œuvre, inquiet face au pouvoir et au service, toujours brûlé par l'Évangile comme par un feu, combien de nos leaders religieux ou de nos gourous d'aujourd'hui feraient bien de méditer son exemple? Pour toutes ces raisons et d'autres encore, François d'Assise demeure donc notre frère, oui, notre frère, fidèle en amitié, figure d'hospitalité offerte, accueillant aux hommes les plus divers. Les larmes sont une prière miséricordieuse, le cœur meurtri par le spectacle de la souffrance. L'homme pleure pour prendre sa part du malheur d'autrui. Avec les larmes, il exprime sa compassion pour toutes les misères, la paix, la faim et le froid, la solitude, la déréliction et l'assédie. Dans les larmes passe le désir du partage et la prière qu'il en soit ainsi, que toute peine compatie s'allège à proportion du nombre de ceux qui veulent la porter. Cette empathie à la ressemblance de la miséricorde de Jésus-Christ, prélude à la réconciliation de l'homme avec ses prochains, comme Dieu s'est réconcilié avec le monde dans la personne du Christ. C'est que Jésus pleure trois fois, débordé par le désespoir de Marthe et de Marie à la mort de Lazare, submergé par le sort que les pécheurs, dans l'obstination de leurs péchés, réservaient à Jérusalem, et enfin sur le mont des Oliviers, dans sa prière au Père, alors que le Fils connaissait la solitude et la terreur de l'homme qui va mourir. La miséricorde est l'attribut divin du Christ, nos larmes, la prière qui trahit notre ressemblance à son image. Elles sont l'exubérance même de la miséricorde, celle qui entre par la déchirure intime de la souffrance. Car sans miséricorde, nul amour du prochain, et alors nulle espérance, nul avenir. Un ange a incarné l'essence de cette miséricorde qui interdit d'être heureux tant qu'un seul être sur terre est privé de joie.